Arcagna, Jacques Lavergne, bonjour. Arcagna, l'émission résiliente. La chose importante à garder en tête est qu'il ne faut jamais attendre une minute pour commencer à changer le monde. C'est un extrait du journal d'Anne Frank et c'est ce à quoi cette émission entend contribuer. Bienvenue à toutes et à tous sur Esprit Occitanie. Alors, première émission d'Arcagna pour cette rentrée et pour bien commencer cette année radiophonique, je reçois une invitée, Lydie Lescarmontier, docteur en glaciologie, qui ne s'est pas contentée de rester au chaud dans un labo, mais a beaucoup pratiqué sur le terrain, comme elle va nous le raconter. Elle est aujourd'hui responsable scientifique dans une fondation d'éducation au changement climatique, fondation placée sous l'égide de l'UNESCO, et elle est aussi l'auteur d'un livre passionnant qui m'a amené à l'inviter, passionnant à plusieurs titres. Il s'appelle « La voix des pôles » chez Flammarion, et nous allons y revenir largement. Bonjour Lydie Lescarmontier.
Bonjour Jacques.
Merci d'être venue dans le studio d'Esprit Occitanie. Vous êtes, je le sais, très occupée et pas forcément toulousaine, donc nous apprécions particulièrement que vous ayez pris du temps et que vous nous le consacriez. Alors j'ai dit que vous étiez glaciologue, je pense que j'ai à peu près résumé ce qu'il fallait dire pour vous connaître, c'est ça hein ?
Oui, je crois que c'est à peu près ça, ouais. En général, quand on me présente et qu'on dit que je suis glaciologue, on a à peu près tout dit.
Ah bon, ben c'est déjà énorme. Alors oui, docteur en glaciologie quand même. Vous êtes lancé dans la glaciologie à la lecture de ce livre que nous mettrons sur le site. À la lecture de ce livre, j'ai appris que c'était un peu par hasard finalement. Ce n'était pas une vocation qui venait de très loin, si ?
Non, la glaciologie, ce n'était pas une vocation de très loin, effectivement. Mais je dois dire que l'étude de l'environnement, du changement climatique, ça, par contre, ça a toujours été présent. Bon, le changement climatique, moins, c'est quelque chose qui est plutôt arrivé au cours de mes études, parce que voilà, plus j'avançais, plus je voyais que c'était un problème qui grandissait et que, voilà, que j'avais envie de m'y intéresser. Mais l'étude des régions polaires, là, c'est venu un petit peu par hasard, effectivement.
Mais vous aviez fait des études avant d'ingénieur, je crois, de géographie aussi.
Oui, des études d'ingénieur en environnement, toujours à Toulouse, d'ailleurs.
Et oui, c'est vrai que vous avez fait vos études à Toulouse, c'est un grand centre universitaire.
Oui, c'est un peu une ville d'adoption pour moi, oui, effectivement.
Alors, ces études de glaciologie vous ont mené assez loin. Ils vous ont mené sur un glacier qui s'appelle le Mertz. Alors, déjà, il faudrait le situer. Dans les glaciers, on arrive d'ailleurs assez peu. Les gens ne font pas forcément la bonne différence entre l'Arctique et l'Antarctique. Alors, le glacier Mertz se situe dans l'Antarctique, c'est bien ça ?
C'est bien ça, oui, l'hémisphère sud.
Déjà, on va démystifier la chose, différence Arctique-Antarctique.
Alors l'Arctique, en fait, c'est la région qui est la plus proche de nous. Donc c'est vrai que souvent, quand on pense aux régions polaires, on associe à peu près toutes nos images à l'Arctique, donc les ours polaires, la banquise, le Groenland, etc. L'Antarctique, c'est vraiment l'autre bout du monde. Donc pour pouvoir y aller, par exemple, en bateau, il faut partir de l'Australie ou de l'Amérique latine. Et c'est un continent, en fait, qui est entouré d'un océan et qui, finalement, est assez peu connu. On peut dire ça, oui, effectivement. Et donc, les manchots se trouvent en Antarctique. Donc ça, c'est déjà... En général, quand on a cette information, on sait pas mal de choses. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur l'Antarctique ? C'est une calotte aussi. Donc, c'est un continent qui est recouvert d'une grosse épaisseur de glace, contrairement à l'Arctique, qui est plutôt un océan recouvert de banquises et entouré de terres qui, elles, sont recouvertes aussi de glaciers et d'une calotte pour le Groenland.
Donc, pour résumer, l'Arctique, c'est en haut, l'Antarctique, c'est en bas.
Tout à fait.
C'est des mnémotechniques très faciles. Et c'est là qu'on trouve la Terre Adélie.
Oui,
et le glacier Mertz. Oh, peut-être un mot de quelqu'un qui revient beaucoup dans votre livre, qui est Benoît Legrézy.
Oui.
Peut-être vous pourriez nous dire...
Un petit bonjour à Benoît, si un jour il m'entend. Oui, Benoît, donc, c'est un chercheur qui travaillait au LEGOS, donc à l'Observatoire Midi-Pyrénées à Toulouse. Et donc Benoît est chercheur et il travaille notamment beaucoup avec des images satellites sur l'évolution des glaciers antarctiques. Donc moi, quand je l'ai rencontré en 2007 pour un stage avec lui au Lagos, ça faisait déjà un paquet d'années que lui allait sur le terrain et puis regardait un petit peu l'évolution de cette calotte.
Et donc Benoît Le Grésy, tu es à la retraite aujourd'hui ?
Non, il n'est pas à la retraite, il travaille aujourd'hui en Australie et il travaille sur le niveau marin. Mais voilà, il a été adopté par les Australiens.
Alors ce livre est passionnant à plusieurs titres. D'abord parce que c'est le récit d'une aventure. C'est quand même l'aventure d'aller là-bas. C'est très surprenant, les popounés où on a l'impression qu'on peut aller partout en parfaite sécurité. Quand on part là-bas, on sait quand on part, on ne sait jamais si on va y arriver et ce qui va se passer entre-temps. On y reviendra. On voit aussi le travail des scientifiques et on voit combien finalement c'est complexe techniquement, bien sûr. Mais il y a aussi d'autres complexités, parce qu'on ne vous aide pas beaucoup en réalité. Si vous n'aviez pas la foi et la passion, je pense qu'il y a beaucoup d'études scientifiques qui ne verraient jamais le jour. Ce livre est très révélateur à ce niveau-là. Il est passionnant aussi parce que vous y avez introduit un certain nombre de fiches techniques. Alors, qu'on ne se méprenne pas, c'est une technique très abordable, c'est beaucoup de vulgarisation. Qui sont passionnants, tant sur tout ce qui concerne la glace, que ce qui concerne le réchauffement climatique sur lequel nous viendrons tout à l'heure. Qui c'est qui a eu l'idée de faire ce livre d'ailleurs ? C'est vous qui...
En fait, c'est un livre qui est un petit peu né d'un autre livre que j'ai écrit auparavant, qui est sorti en 2018, qui s'appelle « L'empreinte des glaces ». Et c'est, ce premier livre, c'est plus un carnet de voyage de l'Astrolabe. Donc c'est un mélange, je l'ai coécrit avec Romain Garouste, qui est illustrateur, et qui est un ami de longue date qui a aussi fait ses études à Toulouse. Et donc, on avait décidé de raconter un peu l'histoire de l'Astrolabe, ce navire polaire sur lequel j'ai navigué 4 ans. Et en fait, en proposant ce livre à plusieurs maisons d'édition, je l'avais envoyé à une éditrice, Pauline Miel aussi, que j'embrasse, qui avait reçu le projet et qui s'était dit que ça serait une bonne idée d'en faire un livre, mais vraiment plus centré en fait, sur la glaciologie, sur le travail de chercheurs sur le terrain. Et donc voilà, ça aboutit à la voix des pôles. Et l'idée d'avoir ce mélange en fait, entre récits et fiches scientifiques, c'était quelque chose qu'on voulait dès le départ. On voulait vraiment avoir une histoire qui soit accessible absolument à tout le monde, qui donne envie en fait, de tourner les pages. Mais moi, en tant que scientifique et éducatrice aujourd'hui, j'avais envie aussi de faire passer quelques informations intéressantes. Et donc voilà, on a choisi un petit peu ce format.
Oui, avec de superbes photos également. Et le tout pour 21,90€, c'est quand même à la portée de toutes les bourses. Et c'est vraiment un livre que je vous conseille chaleureusement. Il est tout à fait passionnant, encore une fois, à plus d'un titre. Alors l'objet de votre thèse et de votre étude sur le terrain, c'était le glacier Mertz. Alors qu'est-ce que c'est que ce glacier Mertz qui, en plus, j'ai appris... comme beaucoup d'ailleurs, que les glaciers vêlés. Ouais, moi, un homme de la campagne, je m'étais cantonné aux vaches, mais les glaciers sont comme les vaches, ils vêlent. Alors, où est-ce qu'il est, ce glacier Mertz, et quel était exactement l'objet de votre étude ?
Alors, ce glacier Mertz, il est à la limite, en fait, de la Terre Adélie. Il n'est plus en Terre Adélie, mais pour y aller, il faut partir donc, de l'Australie et prendre le cap au sud. Il est à 250 km de la station du Mont d'Urville, qui est relativement connue, puisque c'est une station scientifique sur laquelle travaille un certain nombre de scientifiques pour étudier un peu l'évolution de cette région du monde. Et... la particularité du glacier Mertz, c'est que moi, quand j'ai rejoint le projet, ça faisait déjà une dizaine d'années que Benoît Le Grésy suivait l'évolution de ce glacier avec des images satellites parce qu'il avait aperçu une fracture qui s'ouvrait à la surface du glacier et qui avait l'air de présager d'un futur vêlage. Donc c'est en fait, tout le processus qui mène à la formation d'un iceberg. Donc le glacier, en fait, il va s'écouler vraiment comme un fleuve, mais avec des vitesses bien sûr beaucoup plus faibles. Et il va passer la ligne de côte et ensuite il va commencer à flotter sur l'eau. Et en fait, une fois qu'il est sur l'eau, il est soumis au régime des marées, à la houle, etc. Et donc ça va entraîner l'ouverture de crevasses. Et au bout d'un moment, un iceberg va se détacher. Et l'idée du projet, c'était de mettre des instruments sur ce glacier, sur cette langue de glace, et essayer de suivre toutes les petites étapes en fait, qui menaient à la formation de cet iceberg. Et ça, c'était des données assez exceptionnelles pour nous, puisque ça n'avait jamais été fait, on n'avait jamais suivi en direct un vélage. Et surtout, ce qu'il faut savoir sur ce glacier, c'est qu'il faisait 150 km de long par 35 km de large. Donc on savait que ça serait un événement absolument notable, et donc ça nous intéressait de savoir exactement ce qui allait se passer.
Et ce vélage donc a eu lieu, mais vous aviez aussi une autre mission, puisque Mertz, c'est Xavier Mertz en réalité, qui est c'est le découvreur du glacier.
C'est pas le découvreur, il faisait partie de l'équipe qui a découvert le glacier, mais malheureusement...
Il y est resté,
il est mort pas très loin du glacier, de dysenterie en fait. Donc il est tombé malade parce qu'il n'avait plus du tout de nourriture. Et donc le responsable de la cartographie en fait de la région, de l'équipe, qui était Douglas Mawson, l'a jeté en fait dans une des crevasses du glacier et donc lui a donné son nom en hommage.
Et on vous a demandé de retrouver son corps.
Oui, alors c'était pas une demande formelle, mais c'est vrai qu'il y a une association en fait qui travaille sur tout l'héritage en fait de Douglas Mawson et de cette équipe. Et donc il nous avait approché quand il savait qu'on allait revenir sur le glacier en nous disant essayez d'ouvrir l'œil, puisque on sait que par rapport à la vitesse d'écoulement du glacier, normalement vos instruments ne devraient pas être très loin en fait du corps de Mertz qui avait été jeté il y a quasiment un siècle.
Et donc, vous l'avez retrouvé ?
Non, bien sûr que non. Et j'avoue que je suis plutôt contente qu'on ne l'ait pas retrouvé, parce que ça a été un peu terrifiant.
Voilà, donc Mertz est resté chez lui, sur son glacier, qu'il a donné le nom. Alors, allez étudier, vous avez dit tout à l'heure que Benoît Legrézy travaillait beaucoup sur des cartes satellites, mais à un moment, il faut bien sortir du bureau, du labo, et il faut aller sur place. Et aller sur place, vous l'avez dit, c'est long, c'est compliqué. Il n'y a qu'un bateau qui y va, l'Astrolabe. Alors parlez-nous un peu de cet Astrolabe qui est quand même beaucoup, beaucoup au centre de votre livre.
Oui, complètement.
Ce n'est pas un bateau de croisière, hein, ça on a compris quand on le lit.
En fait, c'est un bateau qu'on adore et qu'on déteste à la fois. C'est vraiment le sentiment. En tout cas, toutes les personnes que j'ai pu côtoyer, qui avaient travaillé à bord de l'Astrolabe, ont des tonnes d'histoires à raconter, mais c'est un bateau... Alors, il a changé depuis, en 2016, il a fait son tout dernier voyage, était remplacé par un bateau qui s'appelle toujours l'Astrolabe, mais qui est bien, bien plus confortable et qui est surtout neuf. Mais l'Astrolabe, donc, il porte le nom déjà du bateau de Jules Dumont-d'Urville, qui est le premier en fait, à avoir débarqué sur l'Antarctique, embarqué, en 1840. Et donc ce bateau, donc son surnom, c'est le Gastrolabe, puisque en fait, il bouge énormément. Et donc toutes les personnes qui embarquent à bord sont en général très malades. Et c'est un bateau qui donne vraiment la sensation d'aventure parce qu'il est rustique.
Je lis page 35 de votre livre. Autant dehors l'air embaumait l'eucalyptus, autant à l'intérieur on était pris à la gorge par une odeur nauséabonde et indéfinissable, mêlant le fuel, la friture et quelque chose qui s'avéra plus tard être les remontées de WC dans les labos, de quoi vous coller la nausée même par calme plat. Je commençais à mieux comprendre pourquoi les habitués avaient surnommé l'Astrolabe Gastrolabe. Ça donne pas tellement envie quand même. Hein.
Non, c'est vrai. Moi, j'ai une petite anecdote. Juste avant d'embarquer, j'ai un collègue australien qui connaissait bien l'Astrolabe qui me demandait si j'avais pris mes cachets anti-mal de mer. Et je lui ai dit, non, moi, j'ai pas de connaissances là-dessus. Je vais quand même tester et voir si je suis malade avant d'embarquer. Et il a éclaté de rire. Donc, j'ai compris très vite pourquoi. Non, c'est assez terrible.
Alors, ce bateau embarque que des scientifiques. Hein. Il n'y a pas de touristes, c'est uniquement des scientifiques qui vont hiberner Alors, je ne sais pas si on dit hiberné, d'ailleurs.
Hiverné,
sur la base du Mont d'Urville, qui vont faire leurs études, leur relevé, le suivi des animaux, des glaces, du climat, de la température, j'imagine. Et puis, à côté, il y a ceux qui viennent, comme vous, faire des missions ponctuelles.
Tout à fait. Oui, il y a deux équipes, en fait. On les appelle les campagnards d'été. Donc, ceux qui viennent, comme moi, sur des courtes périodes et qui viennent pendant l'été, donc au moment où il y a le moins de banquises. Donc
campagnards, c'est ceux qui font des campagnes, j'imagine. Voilà. Ils ne viennent pas de nos campagnes profondes.
Non, pas du tout. Non, c'est ceux qui viennent de façon un peu ponctuelle pendant la courte période qu'est l'été où la station, finalement, est ouverte sur l'Australie, un peu sur le reste du monde. Et au contraire, il y a les hivernants qui, eux, sont beaucoup moins nombreux parce que les équipes d'hivernage, c'est entre 20 et 25 personnes. Et donc, eux, ils sont partis pour rester un an, voire un an et demi, puisque ensuite, il y a une passation en fait, qui se fait en été entre les deux équipes d'une année sur l'autre. Donc, voilà. Il y a vraiment deux groupes. Alors, c'est vrai que pendant l'été, tout le monde travaille un petit peu ensemble. Mais après, voilà, les campagnards vont laisser les hivernants et après, la station leur appartient.
Ça vous a un peu tenté, non, de rester sur place?
Oui, tout à fait. Ouais. C'est vrai que quand on découvre l'Antarctique qu'on est passionné par ces environnements-là, on a envie aussi de le découvrir dans toutes les circonstances. Et l'hivernage, ça faisait partie un peu de l'expérience ultime où on découvre la nuit polaire, où on a aussi la station et l'environnement un peu à soi, où on découvre aussi le cycle de vie de tous les animaux. Mais finalement, voilà, j'ai fait d'autres choix, donc...
Comment ça se passe, l'ambiance sur le bateau? C'est... Tout le monde est jeune, tout le monde est très motivé par ses missions. Il y a des échanges techniques où chacun reste enfermé un peu dans sa spécialité?
Non, moi, c'est ce que j'ai adoré dans ces embarquements, c'est que déjà, il y a des gens très, très différents qui se rencontrent, qui passent du temps ensemble et qui ne seraient jamais vus dans la vie de tous les jours. Moi, j'ai rencontré plombiers, soudeurs, électriciens... Des cuistots, des médecins et puis même des personnes qui étaient responsables de la logistique, des choses très techniques en fait qui n'étaient pas forcément accessibles dans mon métier et inversement, eux ils sont contents aussi de rencontrer des scientifiques, de comprendre aussi pourquoi ils vont en Antarctique, comment ils peuvent nous aider. Et c'est vrai que à partir de ça, les échanges sont extrêmement riches parce que chacun nourrit l'autre. Et par exemple, moi, je sais que j'ai beaucoup travaillé avec les aides techniques parce que j'installais des instruments et c'était quelque chose que je savais absolument pas faire. Et donc, eux, ils étaient là pour me dire, bah non, il faut faire ça plutôt comme ça, plutôt comme ça. Donc ça, c'était extrêmement intéressant. Et c'est vrai que l'ambiance est vraiment, vraiment géniale. Et je connais pas une seule personne qui ait pu dire le contraire. Puisque ben, tout le monde déjà partage cette aventure, donc ça c'est un lien extrêmement fort. Et puis c'est vrai que la moyenne d'âge est relativement jeune. Et puis toutes les personnes qui vont là-bas, c'est des personnes qui ont vraiment envie d'y aller. Il y a personne qui part au boulot comme on peut l'imaginer parce que c'est une contrainte.
Oui, on n'y va pas par hasard. Vous étiez combien sur l'Astrolabe à peu près?
On était 45, oui,
ouais,
une quarantaine.
C'est quand même déjà un gros bateau.
Oui. Donc oui, tout à fait. Et puis après, dans ces 45 personnes, il y a une dizaine de membres d'équipage aussi.
Et le voyage dure combien?
Alors, ça, on ne sait jamais.
Oui, parce
c'est un peu
que
ce que vous disiez en introduction.
C'est vraiment un livre d'aventure. Hein. Il faut le lire, ce livre. C'est vraiment un livre d'aventure. On est complètement transporté dans un milieu qui nous est totalement étranger, que l'on apprend à découvrir. Et c'est vrai que, comme je le disais en liminaire, on sait quand on part, on ne sait jamais d'abord si on va arriver et dans quel état aussi.
Ouais. Oui, je me rappelle échanger des mails avec ma famille. Ils me disaient « Alors, quand est-ce que tu arrives ?» Je me disais « Mais j'en ai aucune idée, donc on verra. » Mais effectivement, en fait, s'il n'y a pas de banquise, le bateau en ligne droite met environ 5 jours, donc 5 jours de mer, pour arriver jusqu'à la station du Mont d'Urville. Mais la particularité des missions que j'ai pu faire en Antarctique, c'est qu'on les faisait systématiquement au tout début de la campagne d'été. Et donc, c'est un moment où l'hiver n'est pas encore complètement parti, il y a encore beaucoup de banquises. En plus, ces années-là, il y avait la banquise qui était plutôt étendue et plutôt épaisse. Et donc, voilà, la majorité du temps, en fait, on n'est jamais arrivé jusqu'à la station. Et donc, ce qu'on faisait, c'est que si on avait la possibilité, on finissait la dernière centaine de kilomètres en hélicoptère pour arriver jusqu'au glacier Mertz.
Oui, alors en hélicoptère, ce qui n'est pas sans risque, hein, puisque vous racontez la perte d'un hélicoptère et de tout l'équipage, scientifique compris, qui s'est écrasé au sol.
Oui, tout à fait. Bah, après, c'était un hélicoptère qui rejoignait la station du Mont d'Urville pendant le ravitaillement. Et c'est vrai que j'ai raconté cette histoire tragique, mais finalement, c'est une expérience que j'ai vécue à trois reprises au cours de ces 8 ans de travail en Antarctique. Donc c'est malheureusement quelque chose qui fait partie aussi du quotidien quand on travaille dans ces régions-là.
Ça veut dire qu'il n'y a qu'un patron, c'est la météo.
Tout à fait, oui. Il n'y a qu'un patron, c'est l'Antarctique, de manière générale, que ce soit à travers la météo, que ce soit à travers les conditions de banquise. Et c'est vrai que c'est un réflexe qu'on a totalement perdu dans nos vies de tous les jours, puisque voilà, on maîtrise à peu près tout, on contrôle à peu près tout. Et c'est vrai que quand on arrive dans ces régions-là, il faut réapprendre un petit peu notre place et être plus à l'écoute, en fait, des éléments extérieurs qu'on peut l'être au quotidien.
Ça veut dire que l'homme doit réapprendre, un, l'humilité, et deux, quelle est sa vraie place.
Oui, tout à fait. C'est vraiment la grande leçon que j'ai pu sortir de tout ça.
Et que vous écrivez, je vous cite, « Il m'a fallu du temps avant de comprendre que nos déboires à bord de l'Astrolabe et le tragique accident de 2010, donc c'est celui que nous évoquions, faisaient partie des aléas inévitables lorsque l'être humain se confronte à plus fort que lui, qu'au XXIe siècle, la vie de l'homme puisse être suspendue aux caprices de la météo ou de la mécanique nous paraît aberrant. À l'heure du tout informatique, la panne, l'accident n'ont plus droit de citer. » Et là-bas, on est ramené à ce qu'on est, c'est-à-dire pas grand-chose.
Oui, c'est vrai.
Alors, ces études scientifiques que vous et vos collègues ont fait, ça intéresse qui ? Des questions que je me suis posées.
Oui.
Est-ce que vous contribuez à quoi ? Est-ce que, par exemple, le personnel politique s'intéresse à ce que vous faites ou est-ce qu'il s'en moque, pour ne pas dire autre chose ?
Alors, je pense que c'est un petit peu lié à l'évolution de ma carrière, dans un sens, puisque pendant longtemps, donc pendant mon travail de recherche, je me suis aperçue que, effectivement, cette information scientifique qu'on crée, qu'on apporte en fait à cette grande bibliothèque, elle était accessible à mes collègues, elle était accessible à ceux qui travaillaient en Antarctique ou en glaciologie, mais finalement, elle sortait assez peu du milieu académique. Et en fait, ça a commencé en thèse. J'ai commencé à faire des conférences, notamment pour les enseignants ou pour les classes. Et je me suis aperçue, en fait, que tout ce qui nous paraissait normal, tout ce qu'on savait, était finalement quelque chose qui n'était absolument pas partagé par tout le monde. Je me rappelle aussi, une fois, prendre le taxi alors que je partais en Antarctique. Et puis, le chauffeur qui me dit « Mais alors, c'est vrai ce qu'on dit sur les glaciers qui fondent ?» Et je me suis dit « Mais il y a vraiment un fossé, en fait, entre les deux. » Et c'est à partir de là que j'ai un peu construit cette idée qu'il fallait que je fasse plutôt de la médiation, de la communication, que je passe, en fait, cette information plutôt que je la construise.
Et les politiques, ce n'est pas leur problème. D'ailleurs, à qui appartient l'Antarctique ?
Alors, l'Antarctique n'appartient à personne.
Voilà, c'est bien ce qui me semblait aussi.
Voilà. Donc. C'est vraiment un continent à part parce que c'est... Alors déjà, c'est un continent qui a été découvert très tard, au XIXe siècle. Et puis, c'est vraiment un continent... Alors, je pense que c'est aussi le fait qu'il soit extrêmement isolé, qu'il y ait cette calotte de glace qui fasse qu'il est relativement inaccessible quand on pense à récupérer des ressources, par exemple. Mais bon, il est protégé par un traité qui s'appelle le traité de l'Antarctique. Puis ensuite... Le traité de Madrid qui a été le protocole de Madrid qui a été ajouté en 91 qui dédie en fait ce continent à la paix et à la science. Donc il y a énormément de pays. Donc aujourd'hui c'est 54.
Ça s'appelle un paradis, ça.
Oui, paradis, oui. Oui, on peut dire ça effectivement,
c'est une... dédié à la paix et à la science, c'est fabuleux.
Oui, c'est vrai. Et en fait tous les pays signataires de ce traité aujourd'hui sont 54. Peuvent travailler en Antarctique, peuvent envoyer des scientifiques pour comprendre ce qui se passe à cet endroit-là, mais ne peuvent pas l'exploiter économiquement.
L'Astrolabe, il appartient à qui ? Qui c'est qui le finance ? Comment ça fonctionne ?
Alors, ça a changé entre les deux bateaux. Juste avant, en 2016, cet ancien bateau appartenait à une société privée qui était PO, qui était ensuite... le bateau était affrété par l'Institut Polaire pendant toute la période de l'année où il y avait ces allers-retours en fait en Antarctique. Et aujourd'hui, c'est un bateau qui appartient à la Marine nationale et qui...
Marine nationale de quel pays ?
Française.
C'est français.
Oui, c'est français. Et donc, c'est un équipage aussi Marine nationale. Et donc, le bateau, pendant l'été, dans l'hémisphère sud, part en Antarctique. Et le reste de l'année, il fait de la patrouille de sécurité, en quelque sorte, autour des îles australes et antarctiques françaises.
Alors, on découvre là aussi que la science, qui est tout à fait essentielle à nos vies et à notre développement et à notre futur, en réalité, il n'y a pas beaucoup de gens qui s'y intéressent, malheureusement, mais ça, nous y reviendrons. Et on voit que le scientifique, il passe une partie de son temps à rechercher des financements. Parce que ces études, ce n'est pas automatique, il faut trouver de quoi aller sur place, il faut trouver des sous, il faut trouver... des gens qui vont financer, qui vont être intéressés. Alors, c'est qui ? C'est le privé ? C'est le public ?
Oh, c'est un petit peu tout, en fait. Voilà, ça dépend vraiment des projets. Par exemple, pour le projet du Glacier Mertz, il y avait des financements à la fois du CNRS, mais via les ANR, mais il y avait aussi des gros financements du CNES, du Centre National d'Études Spatiales, qui est à Toulouse. Donc, voilà, ça dépend vraiment des projets. Il y a des tests, par exemple, qui vont être financés par AXA. Voilà, ça dépend. Mais effectivement, ça fait
partie qu'il faut,
aujourd'hui.
Il faut monter des dossiers, puis il faut aller vendre. Il faut aller le
Tout
vendre,
à fait.
C'est ça.
Exactement, ouais.
Ça me rappelle un peu ce que font aujourd'hui, mais c'est moins risqué, les acteurs culturels aujourd'hui. Si vous dirigez un théâtre, on pourrait même dire une radio ou autre chose comme ça, vous êtes obligé de monter des dossiers, de passer la moitié de votre temps à aller convaincre des gens qui sont dans des bureaux de la pertinence de votre projet et du fait qu'il faut qu'ils vous aident financièrement.
Exactement, oui. Ben, de toute façon, plus on réduit en fait les financements, plus il faut venir avec des arguments pour expliquer pourquoi ce projet est particulièrement intéressant par rapport à d'autres. Ce qui est un petit peu difficile et qui, pour moi, biaise un peu ce travail de scientifique qui est vraiment basé sur la coopération et qui fait que certaines équipes, aujourd'hui, vont être plus en compétition. Mais voilà, c'est la réalité d'aujourd'hui. Oui.
Alors, il y a aussi un aspect poétique dans votre livre. On y a des mots fabuleux. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. Polini, Frasile, il y a l'embâcle et la débâcle, les Zoumarocs, je ne sais pas si je prononce bien, les vents catabatiques, les Sastrugis, le jour blanc, cryosphère, et j'en passe quelques-uns. C'est beau.
Oui, c'est très beau.
C'est
oui.
beau, mais on ne les emploie pas du tout dans le langage courant. Je ne pense pas que je pourrais les replacer pendant une émission.
Non, en général, on les apprend quand on embarque sur l'Astrolabe et qu'on observe un petit peu le paysage. Oui, c'est vraiment des mots qui sont associés à ces régions polaires. Et c'est vrai qu'ils se trouvent être très poétiques.
Ah oui, l'albédo, c'est joli, l'albédo, l'isostasie, je les ai notés parce que je ne les ai pas retenus, la subsidence, etc. Vous avez évoqué tout à l'heure les animaux qu'il y avait. Qu'est-ce qu'il y a comme animaux en Antarctique ?
Il y a énormément d'animaux. Alors, il y a déjà les manchots, ceux qui sont les plus connus, avec plein d'espèces différentes.
D'ailleurs, la marche de l'empereur, c'est ça, c'est le manchot
oui.
Qui va marcher pendant des heures pour aller rejoindre la mer, aller pêcher, les ramener, etc.
Tout
Et
à
vous
fait.
Disiez d'ailleurs qu'ils ont de plus en plus de mal à vivre.
Oui, alors ça dépend un peu. Il y a vraiment il y a de la variabilité en fait, interannuelle. Mais c'est vrai que la marche de l'empereur a été tournée avec la manchotière de Dumont-Durville. Et donc l'équipe est venue sur la station pour les filmer au quotidien. Mais les années où j'ai pu travailler en Antarctique, effectivement, je disais, ça a eu des impacts sur l'Astrolabe. La banquise était assez étendue. Il y a aussi eu des changements de géographie à cause du vélage du glacier Mertz. Et ça a impacté en fait cette manchotière qui est située à 200 km du glacier. Parce que pendant 2-3 années de suite, il y a eu énormément de banquises juste devant la manchotière où les manchois en fait, avaient leurs petits. Et donc, pour pouvoir nourrir les poussins, il fallait qu'ils fassent qu'ils parcourent des distances beaucoup plus importantes pour arriver jusqu'à l'eau libre, donc l'eau libre de glace, se nourrissent et ensuite reviennent. Donc souvent, quand ils revenaient, vu que c'était beaucoup plus tard, les poussins étaient affaiblis et puis au moindre coup de froid, mouraient. Et c'est vrai qu'il y a eu 2 années de suite, quasiment aucune naissance à cause de ça.
Et les autres animaux ? Il y a des ours ?
Non, surtout pas.
Surtout pas.
En Arctique sont les ours, mais il y a énormément d'oiseaux, il y a plein d'espèces de pétrels. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a des phoques, il y a des baleines, il y a plusieurs espèces de phoques, de baleines.
Est-ce que cette biodiversité est en régression ou pas ?
Alors, j'avoue que ce n'est pas forcément mon domaine. Si elle n'est pas en régression, en tout cas, elle est menacée aujourd'hui, puisque voilà, les conditions de banquise changent, les conditions aussi, par exemple, des courants vont changer à cause de la fonte des glaces. Donc voilà, il y a beaucoup de changements qui s'opèrent et qui peuvent potentiellement impacter les manchots. Je sais que, par exemple, dans la péninsule antarctique, donc c'est cette grande virgule qui remonte vers l'Amérique du Sud, il y a de plus en plus de jours avec des températures positives, de la pluie aussi parfois, qui peut entraîner du coup la mort des petits en été. Donc, il y a des changements qui démarrent finalement.
On va revenir, Lydie Lescarmontier, sur ces changements. On propose une pause musicale. Alors c'est Charles Baudelaire, donc c'est pas lui qui chante, c'est lui qui a écrit. C'est chanté par Yves Montand, Les Bijoux.
Elle n'avait gardé que ses bijoux sonores, dont le riche attirail lui donnait l'air vainqueur, qu'ont dans leurs jours heureux les esclaves des morts. Quand il jette en dansant son bruit vif et moqueur, ce monde rayonnant de métal et de pierre me ravit en extase et j'aime à la fureur les choses où le son se mêle à la lumière. Elle était donc couchée et se laissait aimer, et du haut du divan elle souriait d'aise. Ah, mon amour profond et doux comme la mer, qui vers elle montait comme vers sa falaise. Les yeux fixés sur moi comme un tigre dompté, d'un air vague et rêveur, elle essayait des poses. Et la candeur unie à la lubricité donnait un charme neuf à ses métamorphoses. Et son bras et sa jambe et sa cuisse et ses reins, polis comme de l'huile, ondulent comme un cygne, passaient devant mes yeux clairvoyants et sereins, et son ventre et ses seins. Ces grappes de ma vigne s'avançaient plus câlins que les anges du mal pour troubler le repos où mon âme était mise et pour la déranger du rocher de cristal où calme et solitaire elle s'était assise. Je croyais voir unis par un nouveau dessin les hanches de l'Antiope au buste d'un imberbe, tant sa taille faisait ressortir son bassin sur ce teint fauve et brun. Le phare était superbe. Et la lampe s'étant résignée à mourir, comme le foyer seul illuminait la chambre, chaque fois qu'il poussait un flamboyant soupir, il inondait de sang cette peau couleur d'ambre.
Voilà Charles Baudelaire, Yves Montand associés dans cette chanson Les Bijoux. Et nous retrouvons notre invité, Lydie Descarmontier, glaciologue, l'auteur de La Voix des pôles chez Flammarion. Un livre dont je n'ai pas cessé depuis l'émission de dire du bien parce que je le pense. Bon, alors Lydie Descarmontier, on est arrivé au point de se dire que quand même là-bas ça bougeait, c'est-à-dire que les conditions étaient en train d'évoluer et pas forcément dans le bon sens. Alors en première question un peu basique, ça fond ou ça fond pas?
Oui, ça fond. Oui, effectivement, ça fond. Ça fond un peu partout maintenant. Il y a quand même des différences entre l'Antarctique de l'Est et l'Antarctique de l'Ouest. Puisque en fait, c'est des régions qui ont une géographie très différente. Et temporairement, en Antarctique de l'Est, on peut observer quelques régions qui peuvent gagner un peu de masse, donc avec plus de neige en fait, qui va tomber et qui va alimenter les glaciers. Mais si on regarde l'intégralité de l'Antarctique, c'est environ 150 milliards de tonnes de glace qui disparaissent chaque année. Donc oui, on peut dire que ça fond.
Donc c'est colossal. Et alors ça fond pourquoi?
Alors ça fond à cause du réchauffement climatique, du changement climatique, et de façon différente en fait en fonction des régions du monde. Mais en Antarctique, c'est essentiellement par un réchauffement de l'océan finalement qui vient faire fondre les plateformes de glace qui s'écoulent en fait à la surface de l'eau.
Un réchauffement dû à l'activité humaine?
Oui, tout à fait, oui.
Bon, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus quand même beaucoup d'ambiguïté sur cette question. Alors, il reste quelques poches de résistance de gens qui ne veulent pas voir l'évidence. Mais bon, l'activité humaine aujourd'hui est en train de modifier les grands équilibres de la Terre, du climat, des océans, des courants, etc., etc. C'est indéniable.
Oui, c'est indéniable. Oui, il n'y a plus de questions à se poser. Je pense qu'effectivement, il y a quelques personnes qui n'ont pas forcément envie d'y croire parce que c'est aussi des réflexes assez... comment dire? Des réflexes face à cette menace, de se dire qu'en fait, on n'a pas forcément envie d'y adhérer parce qu'on sait que c'est gros, que ça va vraiment nous impacter. Mais bon, voilà, en tout cas, dans la communauté scientifique, il n'y a plus aucun doute.
Oui, et puis les rapports du GIEC là-dessus, qui sont quand même, on va dire, édulcorés, ils n'ont pas le couteau entre les dents, hein. Ce ne sont pas des sanguinaires, les scientifiques du GIEC, ils se retiennent quand même un peu. Par contre, quand vous parlez avec eux, moi, je me souviens d'émissions que j'ai faites il y a plusieurs années avec Jean Jouzel, bon, c'est des gens qui sont très clairs, très droits dans leurs bottes, et leur analyse est sans appel.
Oui. De toute façon, toutes les conclusions sont basées sur des résultats scientifiques. Il n'y a aucun militantisme, en fait, dans ces rapports, ce qui fait qu'ils ont une grande portée, puisque, voilà, ils présentent des chiffres, ils ne présentent pas des opinions. Et c'est ça qui est important et qui leur donne du poids.
Votre métier aujourd'hui, donc, vous l'avez dit en démarrant cette émission, c'est un peu la vulgarisation sur cette question.
Oui, alors j'aime pas trop ce terme de vulgarisation.
Alors donnez-moi le bon terme.
Non, oui, c'est plus de l'éducation finalement, parce que c'est un tout. C'est avoir accès à cette information scientifique, qui peut être de la vulgarisation, c'est transformer...
Il faut la décoder, c'est-à-dire la mettre à la disposition de gens qui n'ont pas la formation pour peut-être la décrypter brute.
Oui, tout à fait. Et ce que je vois aujourd'hui, c'est que si on utilise les bons mots et si on a, voilà, on arrive en fait à alors pardon, c'est moi qui trouve plus mes mots du coup, mais clairement, on arrive en fait à faire comprendre des informations extrêmement difficiles, mais même à des enfants. Ben moi, c'est mon métier aujourd'hui. Je travaille à l'éducation au changement climatique, mais pour des enseignants qui travaillent avec des enfants de 9 à 15 ans. Et ce qu'on arrive à démontrer, c'est que ben, ce qu'on peut apprendre à un enfant de 9 ans, c'est quasiment la même chose que ce qu'on peut apprendre à un adulte si on arrive en fait à revenir sur ces informations-là et à les rendre accessibles.
Vous travaillez dans quel cadre? Je citais tout à l'heure une organisation qui est une...
Qui est une ONG, finalement.
Une ONG, oui.
Ça s'appelle le Bureau d'éducation au climat. Donc, nous, on est une ONG internationale. Donc, c'est Office for Climate Education, son nom. Et donc, nous, on est basé à Paris et on travaille avec des partenaires vraiment partout dans le monde, des partenaires éducatifs et scientifiques, pour en alliant en fait la pédagogie et la science, faire passer ces informations et transformer en ressources scientifiques pour les enseignants, mais aussi en ressources pédagogiques. Donc, on travaille à la fois sur l'information, mais aussi sur la manière d'enseigner le changement climatique, en utilisant par exemple des pédagogies de projet, donc en développant dans sa classe un projet spécifique sur des actions à mener contre le changement climatique, mais aussi sur tout ce qui est méthode d'investigation. Donc montrer en fait aux enfants que face à ces informations qui sont extrêmement anxiogènes, ils peuvent mettre en place, ils peuvent trouver des solutions en utilisant un peu la méthode finalement de recherche.
Quelle est votre vision de l'avenir ? Parce qu'aujourd'hui, le point de la situation, on le connaît, hein, on le connaît depuis le rapport Meadows en 72, je crois, le Club de Rome, où Meadows avait à peu près décrit, il n'avait pas pris en compte la totalité des infos qu'il n'avait pas, mais il avait à peu près décrit ce qui se passe aujourd'hui. Donc depuis 72, on ne peut pas dire que ce soit une élucubration qui date de 5 ans. Tout ça a été vérifié, revérifié et validé par les faits. Tout a été écrit. On a même dit comment on pourrait peut-être échapper à la catastrophe qui nous attend. Ça, c'est mon côté collapsologue. Et on sait aussi comment financer. Mais pour autant, on a l'impression que ça ne bouge pas. Parce que le personnel politique ne prend pas du tout ça en compte.
Je pense que c'est extrêmement difficile parce que il faut. Alors ça, c'est vraiment pour la première fois dans l'humanité, il faut tout revoir de A à Z. Ça veut dire que toute notre économie, toutes nos sociétés, elles sont basées sur les énergies fossiles. Et ça, il faut complètement l'oublier et tout recréer. Et forcément, c'est un boulot qui est extrêmement difficile, qui prend du temps. Il y a une inertie aussi qui est inhérente au gouvernement qui ne fonctionne pas forcément dans l'urgence, parce que forcément, plus on attend et plus les changements doivent être drastiques et rapides.
Drastiques, rapides et surtout mondiaux, parce que oui. Même si la France devenait, entre guillemets, verte, ce qui n'a pas beaucoup de sens, ou même toute l'Europe, ça ne changerait rien au problème.
Si, ça participe. Moi, je crois vraiment au rôle un petit peu d'ambassadeur, de montrer que si un pays est capable de le faire, d'autres pays seront aussi attirés vers cette solution. Mais effectivement, il faut tout revoir. Il faut revoir aussi. Il y a un gros boulot d'éducation. On parlait par exemple des climato-sceptiques, il y en a encore. On voit aussi avec le contexte actuel du vaccin, etc., à quel point on ne peut pas faire passer des changements s'ils ne sont pas acceptés aussi par les populations et si on n'a pas compris pourquoi on le fait. C'est un défi énorme et qui surtout va à l'encontre de notre fonctionnement qu'on a toujours eu. On avance en fait sans vraiment prévoir le lendemain depuis toujours, alors qu'aujourd'hui, on doit complètement renverser la balance et dire, voilà, dans le futur, on veut arriver à 1,5 degré maximum d'augmentation de la température. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour aujourd'hui, pour arriver à ça ?
Ça veut dire qu'il faut changer tous les paradigmes de nos sociétés ?
Oui.
Absolument. Ça voudrait dire qu'il faut qu'il y ait prise de conscience, qu'il faut qu'il y ait aussi une volonté commune d'aller vers ça. Alors vous avez cité effectivement l'exemple du vaccin. Quand on le voit, on peut tout craindre. Vous y croyez, vous, à ce changement ? Vous avez une vision optimiste sur l'avenir ?
Alors moi, j'y crois et j'y croirai jusqu'au bout, parce que le jour où je dirais « j'y crois pas », je peux arrêter mon métier, en fait. Je pense que c'est un petit peu ça. Je m'accroche à ce positivisme et surtout, je vois beaucoup de changements. Je les vois pas assez rapides, clairement.
Alors c'est ça le problème, c'est que des changements, on en voit, des prises de conscience, on en voit de plus en plus. Bon, il y a une certaine tendance aussi, un peu... C'est moderne d'avoir ce type de position. Est-ce que ça suffira ? Et surtout, est-ce qu'on a le temps ? Le temps joue contre nous. On sait que si dans les 10 ans, et encore 10 ans, c'est peut-être beaucoup, des décisions drastiques ne sont pas prises et mises en exécution, c'est mort.
Oui, on sait bien, ouais. Oui.
Et donc, vous restez malgré tout optimiste ?
Personnellement, je pense qu'on n'arrivera pas à 1,5 degré. J'ai envie de passer ce message, de dire que c'est possible. C'est ce que montrent aussi les rapports du GIEC, c'est que scientifiquement, on peut y arriver, on peut se cantonner à cette augmentation de la température. Mais effectivement, ça va être très, très dur. Et oui.
Oui, parce qu'à côté, il y a quand même d'autres choses qui se conjuguent. Il y a la pollution.
Oui.
Il y a la déplétion des matières premières, et notamment tout ce qui concerne l'énergie, mais pas que.
Oui, en fait, tout est lié, et c'est un peu ce qu'on met sous le package qui s'appelle le développement durable. Et c'est ce que montrent aussi les rapports du GIEC, notamment les rapports spéciaux. C'est qu'en fait, on ne peut pas lutter contre le changement climatique si on n'a pas un fonctionnement qui est basé sur le développement durable. C'est cette idée un peu de geste conscient de se dire, encore une fois, j'anticipe l'impact de tout ce que je fais au quotidien. Et ça touche absolument tout le monde, donc à la fois les ménages, mais aussi les entreprises, les gouvernements à travers la législation, etc. Donc c'est vraiment un changement total de fonctionnement, et malheureusement, il y a plein de barrières, en fait.
Parce on a quand même l'impression
pas à tout le monde le changement.
Effectivement, les scientifiques sont très au point, une certaine frange de la population aussi, certaines très agissantes. On citait hors micro le Shift Project et Jean-Marc Jancovici et son équipe. Mais à côté de ça, si les politiques ne prennent pas les choses en main et de façon très vigoureuse, si je puis dire, ça ne fonctionnera pas. Et on n'a pas l'impression que ce soit le cas. La plupart des politiques, d'ailleurs, quand on leur parle de ça, vous regardent avec les yeux ronds.
Moi, je pense que il ne faut pas s'appuyer que sur le politique, parce qu'on voit effectivement qu'on parlait de cette inertie, par exemple. Et puis, je pense que les politiques sont aussi là pour donner une sorte de cadre. Je pense que c'est vraiment l'affaire de tous, que ce soit dans le privé ou que ce soit les citoyens de manière générale. Chacun, en fait, a un petit bout de chemin à parcourir.
Mais si on avait 50 ans, Lydie Escarmentier, on se dirait on va former les jeunes, etc. Ils sont d'ailleurs très sensibles, beaucoup plus peut-être les jeunes que
oui,
les anciens.
C'est vrai.
Donc c'est là un facteur d'espoir, mais on n'aura jamais le temps. Vous vous rendez compte, inverser, c'est comme si vous demandiez à un TGV lancé à pleine vitesse de repartir dans l'autre sens aussi vite.
Je sais bien. Il faut y aller, on n'a pas le choix. Hein, si on veut pas vivre dans un monde totalement différent de celui qu'on connaît aujourd'hui, il faut le faire.
Ça veut dire qu'il va falloir, dans l'idéal, imposer des décisions drastiques, à dire à des gens ce que vous avez vécu, vous avez bien profité, mais vous avez bien pourri la planète aussi. Ça, c'est les 30 glorieuses. Hein. Maintenant, on va vivre totalement différemment. Est-ce que vous pensez que c'est politiquement possible? Il y a eu un article récent dans Le Monde, je ne sais pas si vous l'avez vu, écrit par Frédéric Lager, qui est agrégé docteur en histoire, et qui a écrit un article dont le titre est le suivant: « Décarboner vraiment, c'est rompre avec les libertés individuelles, voire avec le pacte démocratique ». Je ne sais pas si vous avez vu cet article.
Non, je ne l'ai pas lu.
Écoutez, je vous le laisserai parce qu'il est tout à fait passionnant, mais à mon avis, il pose la bonne question. Autrement dit, compte tenu de l'urgence, compte tenu de l'importance, et c'est un euphémisme, du changement à opérer, peut-on l'opérer dans le consensus ou pas?
Ah ça, je ne sais pas. J'en suis... Ben, je ne pense pas qu'on puisse demander aux gens d'opérer des changements totalement drastiques s'ils n'ont pas compris pourquoi. Et s'ils n'ont pas compris non plus comment, parce que moi je fais énormément de formations et je m'aperçois aussi que j'ai beaucoup de personnes en face de moi qui me disent « oui, moi j'ai envie de mettre en place des solutions dans mon quotidien, mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qu'il y a à m'apporter ?»
Ça veut dire que les gens ne sont pas forcément braqués, que les gens manquent simplement d'informations et de formations, mais tout ça, ça prend beaucoup de temps. Changer les mentalités, c'est quand même le plus complexe et le plus long.
Oui, mais après... Je pense aussi que tout le monde, aujourd'hui, comprend l'urgence. Et encore une fois, nous, on fait des formations pour les enseignants.
Je ne sais pas, pardon de vous couper, Lydie Escarmentier, mais si vous allez voir M. Bolsonaro, je ne sais pas s'il a vraiment compris l'urgence.
Si vous allez voir
M. Trump à l'époque, mais qui n'est jamais bien loin parce qu'on risque de le voir venir, lui, ou un de ses semblables, ou si vous allez voir M. Poutine... Je pense que les Chinois sont plus conscients de la problématique parce qu'ils commencent à payer cher ce genre de choses. Mais même chez eux, ça sera quand même très compliqué. Donc il y a des freins évidents. On va dire aux Gilets jaunes, par exemple, je n'ai rien contre les Gilets jaunes, mais si on va leur dire sur un rond-point qu'il va falloir qu'ils vivent différemment, que la maison qu'ils ont achetée dans une banlieue de deuxième ou troisième zone, ils ne vont plus pouvoir servir de la voiture pour aller en ville. Vous pensez que ça va fonctionner?
Si, et pas s'il n'y a pas d'aide de l'État. Effectivement, c'est un accompagnement. On doit tous aller dans la même direction. Il faut tous qu'on adhère à cette idée.
Alors on sait qu'on peut trouver de l'argent. Regardez, pour la pandémie, on a trouvé des milliards. On ne savait plus qu'en faire tellement ils tombaient par tous les milliards. C'est assez impressionnant. Mais est-ce que vous pensez que ce modèle peut se reproduire ?
Oui, je pense. Oui, effectivement. Et de toute façon, il y a un rapport qui s'appelle le rapport Stern qui montre que si on n'investit pas aujourd'hui, ça nous coûtera 10 fois plus cher plus tard.
Enfin, à ceux qui resteront.
Oui, non, mais on va... Voilà, en France, en tout cas, on sera là, même s'il fait 45 ou 50 degrés en France l'été, on sera là. On sera pas les plus touchés par le changement climatique, mais... Ce que je voulais dire, c'est que moi, j'ai fait énormément de formations, notamment dans des endroits assez reculés, en Indonésie, donc en Asie du Sud-Est, en Amérique latine. Et j'ai toujours eu face à moi, majorité du temps, des gens qui étaient absolument convaincus, qui étaient motivés pour mettre en place des changements. Et surtout dans ces régions du monde où ils vivent déjà les impacts du changement climatique. Et ça, il faut pas le sous-estimer. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on entend beaucoup parler de Trump, de Bolsonaro, mais finalement, c'est vraiment... Ils sont assez peu nombreux. Et malheureusement, pour ces exemples-là, ils ont des pouvoirs de décision extrêmement importants. Mais je pense qu'aujourd'hui, les gens sont vraiment prêts parce qu'ils comprennent bien que... Ils voient ces changements, ils les vivent.
Alors vous avez dit, quand j'étais en Indonésie, j'ai constaté que vous n'êtes pas la seule, il y a d'excellents livres qui ont été écrits, d'ailleurs je crois même par un chercheur toulousain qui est basé là-bas, un livre absolument fantastique dont je rendrai compte dans une des prochaines émissions, et j'espère bien l'avoir peut-être au téléphone parce qu'il vit là-bas dans une émission Arcania, mais il remarquait que dans les pays asiatiques, la conception de la société est complètement différente. La conception de l'autre, la conception de la vie en commun. Ce n'est pas tout à fait le cas chez nous. Regardez comme l'Asie est arrivée, pour l'instant, à juguler ce virus du Covid, qui n'est qu'un tour de chauffe, parce qu'il y a celui-là, on va en voir certainement arriver beaucoup d'autres. Regardez comme ils l'ont jugulé avec une certaine, je dirais, facilité, ce qui n'est pas du tout notre cas, parce que les gens ne vivent pas tout à fait de la même façon que nous, n'ont pas la même conception de la société. Et peut-être que le concept de démocratie que nous avons chez nous, on ne sait même pas encore si la démocratie existe encore, mais certainement plus que dans d'autres pays, ça ne favorise pas ce genre de démarche.
Oui, complètement. Mais après, il y a des cultures aussi qui sont totalement différentes. Et je ne suis pas sûre que la mise en place de mesures forcées en France serait une solution s'il n'y a pas une adhésion de la population à un moment donné. Donc,
Alors combien de temps, vous qui êtes dans la formation, combien de temps vous vous donnez pour qu'il y ait cette adhésion ou à tout le moins une adhésion majoritaire ?
Alors je pense que l'adhésion, elle existe déjà. Il y a beaucoup de gens qui se rendent compte en fait que c'est...
Il y a beaucoup de gens qui vont trier leurs déchets, qui vont couper l'eau quand ils vont se brosser les dents ou qui vont faire ce genre de choses. Mais on sait que ça, c'est sympa, hein, c'est bien, il faut le faire. Mais c'est le minimum, il faut aller bien, bien, bien au-delà.
Oui, non, mais franchement, moi, je suis entourée de personnes qui, par exemple, ne sont pas parties en vacances cet été ou qui sont parties faire la Loire à vélo ou qui ont changé leur façon de se nourrir ou qui ont changé aussi leur façon de vivre vraiment en profondeur pour pouvoir répondre à ça. Donc, j'y crois vraiment. Effectivement, les temps de mise en place de l'éducation, on dit en général que c'est une dizaine d'années. Mais il faut mettre en place les choses. Alors, au plus jeune âge, hein, je vais prêcher pour ma paroisse. Hein, moi, je pense que si on veut mettre en place des changements de comportement, il faut le faire avant qu'on ait des fonctionnements qui soient trop ancrés dans notre vie adulte. Donc, il faut cibler clairement les enfants. Je pense que c'est possible, mais il faut un gros accompagnement.
Oui. Possible, ce sera possible. La question, c'est de savoir si nous aurons le temps et si nous n'arriverons pas trop tard pour inverser la situation.
Oui.
Et c'est là la grande question. Que ce soit possible, oui, bien sûr qu'on va y arriver. Mais est-ce qu'on va y arriver dans des temps qui nous permettront... Parce qu'on sait que même si on arrêtait aujourd'hui toute activité humaine et donc toute pollution et toute action sur le réchauffement climatique, il faudrait des quelques dizaines d'années pour revenir à la situation antérieure.
Non, c'est plus que quelques dizaines
d'années. Oui, c'est bon,
plutôt des centaines. Ouais.
C'est bon côté optimiste. Je ne veux pas paraître trop noir non plus. Ouais. Si vous lisez le bouquin de Laurent Fabius qui a dirigé la dernière ou l'avant-dernière, bon, je ne sais plus quand est-ce qu'elle était, convention sur le climat à Paris, qui s'appelle Rouge Carbone, il n'emploie pas de langue de bois pour une fois, cet homme politique. Il dit les choses. Il dit, vous avez 3 ans. Au-delà, préparez-vous.
Oui, oui, non, mais ça, j'en suis bien consciente. Hein. Les 1,5 degrés, c'est dans les années qui arrivent. Hein. Et clairement, il faut aussi commencer à s'adapter. Mais voilà, on peut encore ajuster ce curseur et c'est à nous de le vouloir. Et le jour où je dirais, de toute façon, c'est trop tard et on ne peut plus rien faire, ou alors on sera incapable de répondre à l'urgence du problème, dans ce cas-là, pour moi, c'est comme ça qu'on bloque les gens. J'ai des exemples très proches dans ma famille de personnes qui me disent « Non, moi, le changement climatique, tu m'en parles plus, ça me mine le moral. » Tu fais « Oui, oui, effectivement, ça mine le moral. » Mais voilà, si on est direct dans le catastrophisme, ben dans ce cas-là, on n'a plus envie de rien faire. Et surtout, on a juste envie de se protéger et pas forcément de mettre en place de changement. Donc voilà, je garderai coûte que coûte mon discours positif parce que c'est trop important. Mais voilà, il faut avoir conscience que oui, le changement climatique, c'est là et il faut commencer à l'accepter.
L'accepter, on n'aura pas le choix de l'accepter ou de ne pas l'accepter, puisque s'il suffisait de le refuser, ce serait merveilleux. Mais là, il faut surtout... J'ai une phrase qui me revient, que j'ai sous les yeux, parce que ma mémoire me faisait défaut, qui est de Nicolas Georgescu-Rogan. Je ne sais pas si vous savez qui c'est. C'est un scientifique, je crois, polonais, roumain, qui a écrit, je le cite, « Tout se passe comme si l'espèce humaine avait choisi de mener une vie brève mais excitante, laissant aux espèces moins ambitieuses une existence longue mais monotone. » Qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui, 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 il y a du vrai. Mais après, il faut... Ouais. Encore une fois, il faut penser sur le long terme. Il faut surtout se dire que ces changements-là, c'est pas que nos enfants qui vont les vivre. C'est nous. C'est vraiment notre génération. Et ça, c'est aussi une information qui est importante dans le rapport du GIEC. C'est pas nous, on va profiter et après on laisse... On laisse les problèmes
oui,
à la génération
moi, après
suivante.
Après moi, le déluge, c'est ça.
Voilà, c'est que c'est vraiment à notre échelle de temps, à nous, aujourd'hui. Donc voilà, c'est peut-être un petit peu plus motivant aussi pour se dire il faut mettre en place des choses. Ouais.
Donc on espère et on croise les doigts et on pense aussi... Ah, il y a ceux aussi qui pensent, je crois qu'on les appelle les cornucopiens, que la science va résoudre tous nos problèmes. On sait que c'est faux.
Oui, on sait que c'est faux,
quand
oui.
On parle, par exemple, on dit, non, mais l'avion, vous allez voir, on va faire des avions verts, ils vont voler à l'hydrogène, à l'électricité, même les voitures, d'ailleurs, on nous bassine en 12 ans, vous allez avoir des voitures électriques. Oui, très bien, mais d'où vient l'électricité? Et puis ensuite, les batteries, et puis le cobalt, et puis etc.
Oui, oui. C'est pour ça que ça dépasse complètement le changement climatique. C'est pas juste la source de notre énergie, c'est aussi tout le... Bah, le fait, en fait, qu'on est sur un système fermé, sur une Terre qui a des limites, et qu'il faut le prendre en compte. Et on peut pas tout faire comme si tout était à disposition sur une durée infinie.
Et c'est même pas un problème, d'ailleurs, de système économique ou politique, parce qu'on pourrait dire le capitalisme, oui, c'est sûr. Mais avant, on a aussi vu des systèmes autres, notamment l'ancienne URSS. C'était pas mieux du point de vue de la pollution et de la protection de la planète.
Non, effectivement. Moi, le changement climatique, ça me fait vraiment penser à cette partie de l'histoire où notre source d'énergie était tirée de l'huile de baleine. Et à cette époque-là, on a très bien vu que, voilà, on pêchait de plus en plus loin. On a commencé à pêcher en Arctique, les côtes basques, Arctique, puis ensuite Antarctique, puis ensuite en pleine mer, jusqu'à ce que les ressources s'épuisent totalement et qu'on soit obligé d'opérer des changements. Alors, ça a été remplacé ensuite par le charbon. Et donc, on est arrivé aujourd'hui à cette ère carbonée. Mais de toute façon, on ne peut pas fonctionner comme ça en remplaçant une énergie par une autre. Il faut aussi revoir complètement notre façon de vivre sur ce système fermé. Parce que sinon, on répétera les mêmes erreurs encore et encore.
Donc, on va terminer sur une note d'optimisme.
Oui.
Lydie Lescarmontier, c'est ça ? Je rappelle le titre de votre livre, La voix d'épaule, Lydie Lescarmontier, donc un livre qui est intéressant. Je le répète à plus d'un titre, d'abord parce qu'on voit vivre des scientifiques, on voit leur quotidien, parce qu'on découvre l'Antarctique que finalement on ne connaît pas, sauf quelques images d'Épinal, et puis parce qu'il y a, outre des photos extrêmement sympathiques, il y a quelques fiches techniques très très abordables, mais qui permettent d'avoir peut-être une meilleure vision de tous ces fonctionnements et de tous ces mécanismes. Merci Lydie Lescarmontier d'être venue.
Merci à vous.
C'était Arcania, une émission de Jacques Lavergne avec à la réalisation Tiffaine Lemaine. C'était sa première émission. Merci Tiffaine, il y en aura beaucoup d'autres après. Vous pourrez retrouver le podcast de cette émission ainsi que ceux de tous les autres sur le site d'Esprit Occitanie. À très bientôt pour une nouvelle édition d'Arcania. Belle journée à toutes et à tous.